Bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
À la une de l'actualité de ce mardi 9 juin, les obsèques de l'afro-américain George Floyd, victime du racisme policier il y a 15 jours à Minneapolis. Elles se déroulent actuellement à Houston, au Texas, point d'orgue d'une mobilisation devenue mondiale et d'une prise de conscience qui prend un tour politique. La disparition du président sortant Pierre Nkurunziza au Burundi, mort d'un arrêt cardiaque à 55 ans après avoir été hospitalisé le week-end dernier, et quelques semaines à peine avant de passer la main à son successeur élu le 20 mai dernier. Et puis nous reviendrons sur la libération surprise au Bahreïn du célèbre opposant et militant des droits de l'homme Nabil Rajab, qui était emprisonné depuis 4 ans pour de simples tweets critiques du gouvernement.
Le journal
en français facile.
Des larmes et des slogans anti-racistes. Les funérailles de George Floyd, tué il y a tout juste 15 jours par un policier à Minneapolis dans le nord du pays, se déroulent en ce moment même dans une église de Houston au Texas, au sud des États-Unis. C'est la ville où il avait grandi. Signe de l'importance politique qu'a prise sa mort brutale et très médiatisée, Joe Biden, le candidat démocrate à la prochaine présidentielle, est intervenu pendant la cérémonie par vidéo interposée. Il s'y adresse directement à la fille de George Floyd, qu'il a rencontrée la veille lors d'une visite auprès de sa famille à Houston. Voici un extrait du discours du candidat démocrate où il s'adresse à la petite Gianna, âgée de 6 ans.
I know you have a lot of questions, honey. No child should have to ask questions that...
Je sais que tu te poses beaucoup de questions, ma chérie. Aucun enfant ne devrait avoir à se poser ces questions que trop d'enfants noirs en Amérique ont dû se poser depuis des générations. Pourquoi ? Pourquoi papa est parti ? J'essaye de regarder avec tes yeux et nous devrions tous nous interroger. Pourquoi est-ce que la réponse est si souvent si froide et si douloureuse ? Pourquoi dans cette nation... Trop d'Américains noirs se réveillent chaque jour en sachant qu'ils peuvent perdre leur vie simplement parce qu'ils vivent leur vie. Pourquoi ? Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas tourner le dos. Nous ne devons pas tourner le dos. Nous ne pouvons pas vivre ce moment en pensant que nous allons détourner notre attention de ce racisme, de ces abus systématiques qui rythment encore la vie américaine. Le temps de la justice raciale est venu. C'est la réponse que nous devons donner à nos enfants quand ils demandent pourquoi. Parce que quand il y aura de la justice pour George Floyd, nous serons alors sur le chemin de la justice raciale en Amérique. Et alors, comme je te l'ai dit, Gianna, ton père aura changé le monde. Dieu vous bénisse.
God bless you.
Joe Biden, dans son message diffusé lors des obsèques de George Floyd à Houston, traduction assurée par Laurent Corot. Et à l'occasion de ces obsèques, le pasteur Al Sharpton a déploré que le président Donald Trump n'ait pas eu un mot, je cite, pour le calvaire de George Floyd. Et au même moment où se déroulent ces obsèques aux États-Unis, des rassemblements se tiennent également dans plusieurs villes de France. À Paris, par exemple, quelques 2400 personnes étaient réunies place de la République, une manière de lui rendre une fois encore hommage. Alexis Bédu.
Ce n'est pas la marée humaine de la semaine dernière, mais tout de même beaucoup de jeunes dans la foule, des noirs, des blancs venus saluer la mémoire de George Floyd. Tous ont été très marqués par les images de l'arrestation de l'homme de 46 ans. Tous témoignent d'ailleurs de la même chose, ce qu'il se passe aux États-Unis, les violences policières, le racisme, le contrôle aux faciès selon la couleur de peau. Ils le vivent, ils le voient au quotidien, ici en France. La foule observe une minute de recueillement, un genou posé sur le bitume de la place, les pancartes « Je ne peux plus respirer » et « Plus jamais ça » tendues vers le ciel. Puis les prises de parole s'enchaînent. La chanteuse Camélia Jordana passe sur l'estrade. C'est elle qui avait lancé une première alerte il y a quelques semaines sur un plateau de télévision, exprimant sa peur de la police. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques de gauche étaient également présents pour un rassemblement à la tonalité différente de celui de la semaine dernière. Le message, lui, reste pourtant le même. Contre le racisme, contre les violences policières et pour l'égalité entre êtres humains.
Merci Alexis Bédu.
Le journal en français facile.
Au Burundi, le décès soudain du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, président en exercice, qui ne s'était pas représenté au scrutin du mois dernier et devait céder sa place en août prochain. Âgé de 55 ans, il est décédé à l'hôpital du cinquantenaire d'une crise cardiaque, selon un communiqué de la présidence publié en milieu d'après-midi. Alexandra Brangeon.
Selon le communiqué de la présidence, l'état de santé du président s'est brutalement détérioré hier matin. Samedi, Pierre Nkurunziza a assisté à un match de volley-ball. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a eu un malaise, indique le communiqué, et a dû être hospitalisé d'abord à l'hôpital de Karoudzi, puis à celui du cinquantenaire. Alors qu'il allait mieux, son état a brusquement changé hier matin avec un arrêt cardiaque. Depuis 48 heures, on disait le président malade, mais toutes les sources officielles se refusaient à le confirmer. Son épouse avait récemment été admise dans un hôpital au Kenya pour y être soignée après avoir contracté le coronavirus, selon certaines sources à Nairobi. Le mandat de Pierre Nkurunziza devait s'achever le 20 août. Il y a 15 jours, son dauphin désigné, Varis Dayeshimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État, Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se représenter. Le gouvernement a annoncé un deuil national de 7 jours à compter d'aujourd'hui.
Alexandra Brangeon du service Afrique de RFI. Et puis la libération d'un défenseur des droits humains emprisonné depuis 4 ans au Bahreïn, Nabil Rajab, condamné à 7 ans de prison, a pu retrouver la liberté ce mardi. Ce militant et opposant avait été arrêté et traduit en justice à plusieurs reprises ces dernières années. Son pays, le Royaume de Bahreïn, petite monarchie du Golfe, voisine et alliée de l'Arabie Saoudite, est régulièrement critiqué pour la répression qui s'abat sur toute forme d'opposition ou de critique du pouvoir. À propos de la libération de Nabil Rajab, écoutez la réaction de Hugo Gabeiro, son avocat et de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH.
Sa libération aujourd'hui est un immense soulagement. On rappelle qu'il purgeait une peine de 7 ans de prison pour des tweets et des interviews critiquant les conditions de détention dans la prison de Jau au Bahreïn et les frappes perpétrées par la coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Nabil Rajab est un défenseur des droits humains reconnu au niveau international. Il a été très actif pour dénoncer le triste bilan droits humains du Bahreïn. Il a été détenu jusqu'aujourd'hui aux côtés d'Abdulhadi Al-Khawaja, un autre défenseur. On pense aussi à Najif Atil, également défenseur des droits humains. Donc effectivement, le cas de Nabil Rajab est emblématique de la volonté des autorités du Bahreïn de passer sous silence les voix critiques au sein du royaume. C'est avec une grande surprise qu'on apprend aujourd'hui sa libération. Son état de santé est toujours assez préoccupant et il a une immunité assez basse. Mais maintenant qu'il est dehors, on espère qu'il aura accès à tous les soins dont il aura besoin.
Hugo Gabeiro de la FIDH au micro de Nicolas Falaise. En France maintenant, on connaissait le seuil de pauvreté, mais l'Observatoire français des inégalités vient de créer un nouvel indicateur qui est le seuil de richesse. Objectif, avoir un outil d'étude précis pour donner à réfléchir sur la répartition des richesses dans le pays. Et au total et au final, en France, on compte 5 millions de personnes qui vivent au-dessus de ce seuil. À quoi cela correspond-il exactement? Les réponses de Pauline Glaise.
L'Observatoire des inégalités a fixé son seuil de richesse à 3 740 euros par mois après impôts pour une personne seule. Cela correspond au double du revenu médian en France. Au total, un peu plus de 8% de la population française est riche selon ces critères. C'est l'équivalent à la part de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Presque autant de riches que de pauvres, mais 10% des plus aisés se partagent un quart de l'ensemble des revenus après impôts. D'ailleurs, l'Observatoire souligne que malgré sa politique fiscale, la France semble plaire aux très riches. Même après impôt, le pourcent le plus aisé du pays est plus riche que dans les autres États européens, exception faite de la Suisse. L'Observatoire des inégalités s'est aussi penché sur la fortune en patrimoine. Il a établi son seuil de richesse à 490 000 euros, le triple du patrimoine médian, et plus de 4,5 millions de ménages en possèdent davantage. Alors qui sont ces riches? Les plus de 50 ans sont très largement majoritaires. Ils sont cadres supérieurs, juristes, médecins, conseillers financiers ou encore chefs d'entreprise. Parmi les 10% les plus riches, un tiers vit en région parisienne.
Pauline Glaize, et l'année 2020 s'annonce comme une année noire sur le plan économique. On le savait, dans ses projections macroéconomiques, la Banque de France prédit pour cette année une récession inédite de 10%, une envolée du chômage et une augmentation de la dette jusqu'à 120%. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Fabrice Viollet, rédaction en chef Romain Auzoui. Merci à vous de votre fidélité. L'info revient dans 50 minutes sur RFI.
Que tu regardes.